démarrer tout un... commencer un parcours autour de l'écriture. On avait pris ce thème sur le... La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Avoir cette fidélité, j'allais dire peut-être aussi cette loyauté envers Dieu, pour pouvoir dégager chaque jour un moment de culte quotidien. Fréquenter l'écriture chaque jour que Dieu fait. On peut avoir de l'aide, hein, il y a des petits fascicules qui nous aident au quotidien. Cette année, voilà, Catherine m'a racheté un petit bouquin avec une méditation quotidienne. Tous les matins, je démarre avec ça. Et puis, voilà, après, pouvoir se laisser toucher par la parole de Dieu le plus souvent possible. Parfois, ça peut nous éviter de croire qu'on peut gérer tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes les choses de la vie. Mais savoir que dans tout ce que nous traversons, eh bien, une parole de Dieu peut être auprès de nous. On avait vu, voilà, je vous avais, au niveau mémotechnique, hein, le Christ tout entier dans la Bible tout entière. Pouvoir garder le cap sur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, quand je lis l'Écriture, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avoir toujours cette question en soi, cette interrogation, Seigneur, comment est-ce que je peux mieux te connaître ? Vous seriez étonné de tous les textes de l'Ancien Testament qui peuvent nous apporter quelque chose, non pas sur un Dieu vague et puis un Dieu qui serait comme ça un petit peu partout, mais sur Jésus-Christ. Tellement de textes qui nous parlent de ce sauveur qui va venir, de ce Messie à venir, que ce soit dans les psaumes, dans les prophètes, mais aussi dès la Genèse, plein de textes. Alors pour ça, il faut lire l'Écriture. Ce matin, j'aimerais continuer ce thème, commencer la faim et la soif de la parole de Dieu. On se préoccupe souvent. Catherine n'a pas le temps de faire à manger, c'est moi qui fais à manger. Alors déjà, le matin, puis vers 11h, je me dis, mais je suis retraité, qu'est-ce que je vais faire à manger à midi ? Est-ce qu'on ouvre, on sort un paquet du congélateur ? Est-ce qu'on prend quelque chose qu'on a déjà fait ? Est-ce qu'on ouvre une boîte de conserve ? Est-ce qu'il faut peler des pommes de terre, des carottes ? Catherine, elle mange beaucoup de légumes, donc il faut faire la pluche. Moi, je suis moins compliqué. Je congèle les petits sacs de pâtes, et puis quand j'ai besoin... Comment est-ce que vous préparez la faim et la soif de la parole de Dieu ? Si le repas quotidien, c'est non pas une angoisse, hein, mais quelque chose qui se déroule dans nos vies. Est-ce qu'on est fast-food ? Moi, le matin, je suis un peu fast-food, puisque j'ai un petit livret avec une parole pour tous les jours. Voilà, c'est un petit peu, c'est du tout préparé. Mais quelle est ma faim, ma soif d'une rencontre personnelle avec Christ au travers d'une parole vivante de Christ ? Une parole qui m'accompagne, une parole que je peux confesser, une parole que je peux proclamer, une parole qui sera comme un bouclier, qui sera comme une épée. Tous ces textes, on les lit, mais comment est-ce que je les applique dans ma vie ? J'aimerais lire un texte avec vous dans le livre du prophète Amos. Au chapitre 8 et le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Par soif de plein de choses dans le monde, les désirs, les ambitions sont là. Il y a des gens qui sont avides de toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'il y a dans nos cœurs de la place pour la faim et la soif d'entendre une parole de Dieu? Je ne sais pas quelle est votre conception du bonheur ou d'être heureux. En ce moment, il y a plein de gens qui relisent la philosophie grecque et qui écrivent sur la joie, sur des gens célèbres, et puis on met leurs livres en tête de gondole quand on rentre dans la librairie, dans les grands magasins. Et puis ces gens-là essayent de soutenir les uns et les autres en prenant des vieilles recettes et puis en les remettant au goût du jour. Je pense qu'Israël perdurait en tant que nation exilée parce qu'il y avait cet attachement à la loi de Dieu, l'ancienne alliance, à l'Ancien Testament. Pendant des millénaires, ces textes ont conservé quelque chose à ce pays. Et après ce temps de la Shoah où 6 millions ont disparu, en 1948, il y en avait encore assez pour recréer le pays. Du septentrion à l'Orient, ce peuple a erré pour retrouver une parole de Dieu. J'espère que cette parole est encore présente aujourd'hui. Beaucoup de soucis autour d'Israël, de la Palestine, en ce moment là aussi, c'est dans les prières de Diana. C'est dans nos nouvelles quotidiennes où on rabâche depuis 30 ans, 40 ans, 70 ans, toujours les mêmes choses. Tout le monde a son plan de paix. Je crois que le Seigneur disait, voilà, quand les hommes parleront de paix, de paix, de paix, de paix. Non. Comment est-ce qu'une parole de Dieu peut venir à nous et puis nous attraper et nous donner autre chose? La faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. En 2020, le monde est en danger. J'aimerais prendre un texte avec vous. Dans l'évangile de Matthieu, on verra que le monde, je ne sais pas s'il a tant que ça changé par rapport aux paroles de Jésus. Matthieu chapitre 4, je vais lire les quatre premiers versets. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a peut-être des moments dans nos vies où même la nourriture devient secondaire par rapport à des aspirations, à des besoins spirituels, des choses dans la vie à laquelle on se heurte, et puis à laquelle on attend quelque chose de la part de Dieu. Et il y a un cri en nous, voilà. Seigneur, révèle-toi, j'ai besoin d'une part, j'ai besoin de quelque chose de solide. J'ai besoin de nourriture spirituelle solide. L'homme, la femme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'il y a eu des moments dans nos vies où recevoir quelque chose de la part de Dieu était plus important que la vie quotidienne, que de préparer un repas, que d'aller au restaurant, que de penser dans les discussions des Français, bah souvent à table, la moitié des discussions tournent autour de la nourriture. On ne compte plus les émissions de coach aujourd'hui pour les desserts, pour ci, pour ça, les meilleurs pâtissiers, les meilleurs cuisiniers. Est-ce qu'il y a un meilleur pâtissier spirituel ? Moi, j'aime les desserts, donc je serais un petit peu pour un pâtissier spirituel, quelqu'un qui prépare des bonnes choses. Mais j'attends peut-être pas le pâtissier, je me sers moi-même. C'est une joie dans la semaine de s'arrêter, c'est vrai que maintenant que j'ai le temps. En ce moment, je travaille la christologie. Puis cette semaine, je me suis dit, tiens, quels sont les textes qui parle de credo, de confession de foi de la première église et d'hymne à la gloire de Jésus. Et puis j'ai commencé à prendre dans Romains et puis à défiler tous les textes et à noter tout ce qui ressemblait à un texte qui glorifie la personne et l'œuvre de Jésus. Je crois que j'ai dû en trouver à peu près 14. Et ces textes m'ont réjoui toute la semaine. Toute la semaine, qui est Jésus, quelle œuvre, quelle personne il est. Et au travers de tous ces textes, qui sont un écho que Paul a repris de toutes les confessions de Christ dans la première Église, se dessine une vision de la personne, de l'œuvre de Jésus, quelque chose qui est extraordinaire. Le livre de Romains, il y a 16 chapitres, on peut le parcourir assez vite, mais c'est comme une cathédrale. Tellement de choses à voir à l'intérieur de cet épître de Paul. Tellement de textes forts, profonds. Rien que, je veux dire, allez, supposons qu'on aille sur une île déserte et qu'on me demande qu'est-ce que tu emportes. Mais finalement, déjà avec ces 14 textes de confession de Christ dans l'épître aux Romains, il y aura déjà de quoi méditer pour une génération. La faim et la soif de la parole de Dieu. Quand est-ce pour la dernière fois qu'on a essayé de lire un livre de la Bible tout entière ? Alors, il ne faut peut-être pas commencer par Ésaïe qui a 66 chapitres, mais prendre une épître de Jean. Alors, il y en a une, il n'y a qu'un seul chapitre. Ça peut être facile, mais le lire en entier et chercher dans ce texte qu'est-ce qui va être un appui, un soutien pour ma vie, une nourriture spirituelle qui dépasse, qui soit plus grande, plus forte, plus profonde, plus réjouissante que la nourriture physique, nourriture matérielle. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas d'un écrit quelconque. Mais est-ce que je peux considérer l'écriture comme étant une parole qui sort de la bouche de Dieu et qui me donne une relation personnelle avec le Dieu vivant et vrai ? Pas seulement la parole de l'Église, très attaché à la vie de l'Église. Et puis souvent je me dis, mais là aussi, il ne faut pas que l'Église empiète sur le royaume de Dieu, sur ce qu'est Dieu, sur la personne de Jésus. Que chacun soit à sa juste place. Mais que les uns et les autres, quand nous sommes face à l'Écriture, nous considérions que ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est quelque chose d'important. Comment est-ce que Dieu peut parler à chacun ? Il peut nous parler. Et pour moi, la première importance, c'est une parole qui sort de l'Écriture, que j'ai lue dans l'Écriture, que j'ai méditée, que j'ai acceptée, que je confesse avec foi et qui devient un appui pour ma vie. Quand je descends de ma chambre à la salle à manger en bas, On a fait installer il y a quelques années, quand les parents de Catherine sont venus dans le coin, une main courante. Une main courante dans un escalier, bien, c'est quelque chose qui permet de glisser avec le coude ou bien de poser sa main puis de descendre en toute sécurité. La parole de Dieu peut être dans nos vies aussi un appui, une main courante au quotidien. Quelque chose qui stabilise, qui sécurise notre foi. On prend un texte dans le livre du Deutéronome. Au chapitre 8, les trois premiers versets. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays, que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce texte que Jésus met face à l'adversaire, c'est un texte ancien. Texte qui a été révélé à Moïse. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Nous avons un héritage spirituel éternel. Mais il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher, il faut le réclamer, il faut le connaître. Il faut en dessiner les contours. Il faut en peser le poids, la véracité. Est-ce que c'est vrai tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu veut me donner? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Ça me fait 45 ans de chemin avec Dieu. Le chemin n'est pas fini. Souviens-toi, parfois je repense. Je me remémore tout ce que j'ai vécu. Alors après, on dit hein, tout ce qu'on a vécu de grand, de beau, d'extraordinaire. Mais aussi les ratés, les croche-pattes, les moments à terre, afin de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Parfois dans nos vies, il y a des trous, il y a des appels d'air, il y a des moments où le garde-fou, la ligne de vie, la main courante, elle est par là, parfois de notre propre fait. Parce qu'on pense pouvoir s'en tirer, on pense pouvoir se débrouiller tout seul. Israël a vécu quelque chose d'incroyable. Alors après, je ne sais pas, 40 ans de manne. Bon, si ça ressemble à des choux à la crème. Je suis partant. Je ne sais pas ce que c'était. Il n'y en a plus aujourd'hui, donc... Est-ce que c'était du pop-corn? Un genre de pop-corn, mais bon, s'il n'est pas salé ou pas caramélisé, ou s'il n'est pas... Au bout de 40 ans, c'est... J'ai un beau-fils qui aime les pâtes. Il dit, qu'est-ce que je mangeais? Des pâtes. Des pâtes. Des pâtes pendant 40 ans. Apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Non pas la même parole pendant 45 ans, mais toute la richesse de l'Écriture. C'est pour ça qu'on a tous ces livres de l'Écriture, parce que Dieu est riche. Il a passé, laissé seulement un évangile, et puis les 10 commandements de Moïse, et puis ce serait tout. Quelque chose de rétréci, de rikiki. La parole qui sort de la bouche de Dieu est quelque chose de vivant, d'extraordinaire. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Souviens-toi de toutes les paroles, de toutes les promesses que tu as reçues. C'était une parole vivante ce matin encore, un encouragement. Toutes les promesses que je t'ai données sont vraies. Sont vraies. Et Dieu se tiendra à ce qu'il nous a dit, à ce qu'il nous a donné. Je vous propose encore une lecture dans la première épître de Pierre. Pierre 1, les versets 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pouvoir vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, toute parole qui sort de l'Évangile. Il nous a dit que c'est une semence incorruptible. C'est un terme que les jardiniers connaissent bien. Les agriculteurs, la semence, c'est ce qui permet de perpétuer les espèces en agriculture, en horticulture. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est cette parole-là qui résonnera un jour en nous, le jour de la résurrection. Il y aura une parole de Dieu, quelque chose d'extraordinaire qui viendra dans notre vie, et cette parole incorruptible fera quelque chose dans nos vies qui sera extraordinaire. À un moment donné, un ange sonnera de la trompette, et le Christ prononcera des paroles, et quelque chose de vivant, une parole de Dieu vivante viendra pour réanimer, animer jusqu'à la résurrection de nos corps. La parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ce livre, cette parole est éternelle. Quelque chose d'incorruptible, d'indestructible. Nous avons la chance d'en avoir la primauté. Comment est-ce que le monde aujourd'hui peut comprendre qu'est-ce qui se passe? Des épidémies, des guerres, des famines, des feux, des séismes. Quand on lit toute l'écriture, ça nous permet d'avoir une petite idée du plan de Dieu pour l'humanité, puis on se dit, oui, voilà. Jésus a annoncé des choses, justement, dans cet évangile de Matthieu, quand vous verrez ces choses arriver. soyez en paix, ne craignez pas. Ne crains pas, toutes ces choses peuvent arriver, mais ces choses sont là aussi pour annoncer les choses de Dieu. J'aimerais lire encore avec vous dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 8. Le peuple a été en exil, le peuple a été dispersé, et Israël est revenu à Jérusalem, on a reconstruit la ville. Et pendant des années, ils ont oublié le principal. Et un homme de Dieu qui avait la foi, eh bien, a essayé de remettre le principal en route. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes, de femmes, de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes, de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Naja, Uri, Ilkija, Maseja, à sa gauche, Pédaja, Michael, Malkija, Hashem, Ashabana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, puis tous ces hommes, je ne vais pas répéter tous les noms, et les Lévites, expliquaient la loi au peuple. Chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur, le scribe, les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses, buvez ce qui est doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez pas. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. J'ai toujours beaucoup aimé ce texte. Et en plus, il y a l'autorisation de boire et manger et de se réjouir. Donc là, on a une double portion. On peut lire l'Écriture et on peut faire la fête parce qu'on a entendu les paroles de l'Écriture, les paroles de salut, les paroles de délivrance. Alléluia. C'est pour ça que tous les derniers dimanches du mois, on se retrouve ici. Et puis, après avoir passé un moment de culte, partagé le pain et le vin, partagé leurs paroles, on ne fait pas la fête exagérément, mais on prend un temps de communion fraternelle et spirituelle. Le mot agape, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un repas festif quand Dieu est au milieu. quand on écoute, quand on entend la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est proclamée, il y a un terme théologique, hein, je vous le livre, c'est le seul que je ferai, ça s'appelle le kérugme. C'est la proclamation du salut pour les hommes par Jésus-Christ, par le sang versé sur la croix. Ça s'appelle le kérugme. C'est un mot bien théologique, mais on le retrouve dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. C'est un mot important. C'est pour ça que j'ai été recherché dans Romains les traces de toute cette proclamation de la première Église sur la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus. Parce que ce sont des choses centrales. Et après, quand on a lu tous ces textes, on peut se réjouir, on peut faire la fête, on peut ne plus être affligé. Il y a un temps de grâce pour le monde. Ce temps de grâce est encore là, même s'il y a des choses difficiles ici-bas. Il y a toujours des évangélistes, il y a toujours des proclamateurs, il y a toujours des missionnaires, il y a toujours des évangélistes qui sont là pour aller jusqu'aux extrémités du monde, pour dire à tout un chacun, le Christ est vivant. Cette semaine, on a reçu, voilà, pour ceux qui étaient, je ne sais plus, est-ce que c'est Diana ou Claudine qui ont envoyé cette prière, cette demande de prière des Chinois de Wuhan. Voilà, Catherine l'a lu, Catherine a presque pleuré en lisant cette prière. C'est une prière très belle, on pourra finir ce temps, et puis tu l'as sur ton smartphone, Diana. Voilà, on la lira. Une très belle prière aussi de repentance, de dire, voilà, c'est aussi de notre faute si ce coronavirus se développe et qui fait appel à la grâce de Dieu. Très belle prière inspirée par l'Écriture. Je veux dire, là aussi, il y a des Chinois qui peuvent nous donner des leçons sur ce que c'est qu'une prière pas seulement bien construite, mais vraiment une prière de supplication. Et aussi, en même temps, une prière de confession, demander voilà, au Seigneur de poser sa main et que, voilà, dans le temps le plus bref, ces choses puissent être réparées. J'aime beaucoup le dernier verset, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Je ne sais pas si je suis un champion de la compréhension, la révélation spirituelle, mais vraiment s'il y a une des clés de compréhension dans ma vie, voilà, moi, mon rêve c'est toujours c'est de bien comprendre l'Écriture et d'aider à la faire comprendre. C'est tellement extraordinaire. Parole spirituelle, éternelle. Je me dis, quand j'ouvre ce livre, c'est la parole de celui qui a créé le monde par sa parole vivante. Ah, que la lumière soit, que l'énergie soit, que les atomes, les machins. Moi qui aime tout ce qui est scientifique, ah, je me dis, c'est mon Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Et dans Hébreux, il nous est rappelé, il soutient la création par sa parole puissante. Les gens cherchent dans l'infiniment petit. Là, on a trouvé deux choses importantes depuis un an ou deux, le fameux boson de Higgs. Je ne vous raconterai pas ce que c'est, parce que déjà, j'ai la peine à mettre tout ça en place dans ma petite tête. Mais voilà, c'est tout ce magma de particules infiniment petit, les choses que l'on ne voit pas, et qui font que ce monde existe. Mais ce n'est pas avec un microscope et un télescope que l'on va découvrir que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ce qui est visible a été fait de ce qui est invisible. Et c'est pour ça que toute notre vie, le Christ Jésus nous exhorte à croire, à lire et à vivre de sa parole. Est-ce que vous pouvez piocher et puis trouver cette parole des chrétiens donc de Wuhan en Chine, une prière. Oui. Un texte, d'accord. Ouais. Bah écoute, viens-le, tu veux venir le lire ici, que tout le monde puisse saisir les choses.
Alors ces prières urgentes de l'église de Wuhan, un cri désespéré, veuillez prier. Dieu plein de compassion et de miséricorde, nous nous prosternons devant toi et confessons notre péché. Nous avons péché contre toi, notre ville, notre pays, nos compatriotes et nous-mêmes sommes à court de ta gloire. Wuhan et les villes environnantes sont désormais fermées. Et la propagation du virus a dépassé nos capacités. La ville est entourée de l'ombre de la mort. Nous, le peuple de l'Alliance, qui avons reçu une grande grâce, nous vous invoquons, ô Seigneur, vous demandant de nous pardonner notre orgueil et notre ignorance. Notre négligence a créé cette catastrophe mondiale. Aujourd'hui, nous nous repentons pour nos péchés. Veuillez purifier nos cœurs. Sauvez-nous, ô Seigneur, de cette grande calamité. Pardonnez-nous nos péchés et nos transgressions. Sauvez-nous du désastre. Vous êtes le seul à pouvoir nous sauver. Aidez-nous à ne pas nous cacher, mais puissions-nous avoir un fort sentiment de responsabilité sociale au service des personnes âgées et des enfants. Nous envoyons des prières spéciales pour la protection de ceux qui vivent dans la pauvreté dans les villages de campagne. Nous prions pour nos concitoyens de la ville de Wuhan pour empêcher la propagation de ce virus, qu'ils ne prennent plus cette situation à la légère. Nous vous prions, Seigneur Tout-Puissant, d'envoyer un temps chaud pour que ce virus n'ait pas un environnement hospitalier dans lequel vivre. Nous prions pour que vous protégiez également les autres villes. Ô Seigneur, nous nous souvenons des professionnels de la santé en particulier. Protégez-les car ils servent les malades. Nous prions pour ta miséricorde, Seigneur. Nos corps sont faibles et vulnérables. Comme la poussière du vent, puissions-nous venir à vous avec un cœur de repentance. Aidez-nous à prêcher votre message, à rester droit et juste devant vous et à mener une vie propre avec un cœur transformé. Vous seul donnez la paix et l'espoir. Merci, mon Dieu, tu es lent à la colère et plein d'amour. Veuillez retirer ce fléau, entendre le cri de votre peuple et avoir pitié de la ville de Wuhan. Ce sont les prières des églises que le Seigneur aime, toutes au nom sacré de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen.
Voilà, c'est une prière assez touchante. Voilà, aujourd'hui, ça fait l'actualité matin, midi et soir. Voilà, sur les chaînes d'infos, on continue. C'est soit les bandeaux qui passent, soit tous les jours, on nous fait le décompte. Décompte macabre. Voilà. Que cette prière puisse aussi rester dans nos cœurs et que... Voilà, la semaine qui vient, on puisse continuer cette prière avec tous ses frères et sœurs en Chine, puis je pense maintenant dans le monde. Voilà, c'est aussi l'occasion pour tous les chrétiens de se mobiliser. Voilà. Tu parles plus fort. Voilà. Voilà, avoir des mesures, on appelle ça prophylactique. Voilà, je vous propose de vous approcher de...